Chapitre 43. Parissa picore quelques olives et l'observe, les pupilles dilatées. Ses mains retombent sur ses genoux.
Vous avez peut-être un message à faire passer à Salim, demande Jonah.
Oui,
répond-elle lentement. Dites-lui que je vais bien, que j'ai hâte qu'il soit libéré. En prenant une olive, Jonah voit que les ombres jetées par les branches sur le mur au-dessus de la télé bougent différemment. Quelque chose est en train de se passer. Il a l'impression de sentir les membres du groupe d'intervention s'approcher du bois. Il s'abstient de regarder en direction de la fenêtre qui donne sur la terrasse. De toute façon, il ne les verrait sûrement pas.
L'Afghanistan est un pays tellement différent. Hier, j'ai lu un article que j'ai gardé. C'est The Telegraph qui rendait compte de la journée mondiale de la loufoquerie, dit Parissa en esquissant un sourire. À Londres, tout le monde devait prendre le métro sans pantalon. Est-ce qu'on fait ça à Stockholm aussi?
Je ne sais pas, il me semble que non, répond-il, et il fixe les grosses olives dans le bol. Une pie s'envole dehors avec un jacassement affolé. Ils entendent des craquements sous le parquet comme si quelqu'un se trouvait dans la cave.
Un jour, j'ai vu des filles se mettre à la porte de la piscine parce qu'elles refusaient de porter le haut de leur maillot de bain.
Oui, c'est une sorte de mouvement, réplique Jonah tranquillement. Un ray de lumière glisse lentement sur le mur derrière Parissa. Elle prend son téléphone et écrit un message qu'elle envoie aussitôt.
« Je comprends qu'il est question d'égalité homme-femme », déclare-t-elle en posant le portable. « Mais quand même, pourquoi est-ce qu'elles veulent montrer leur sein à tout le monde ?»«
Je pense que les Suédois sont assez décomplexés par rapport à la nudité », explique Jonah. Et il se penche en avant pour faciliter l'accès à son pistolet. « Même s'ils ne prennent pas le métro sans pantalon », sourit-elle en se passant nerveusement la main sur la jambe. « Ça viendra, vous verrez. »«
Mais non. »
Elle rit et un mince filet de sueur coule sur sa joue depuis la racine des cheveux. En tout cas, les Suédois adorent se baigner nus dans la nature.
« Je pourrais peut-être apprendre à m'y faire », dit-elle en tournant les yeux vers la fenêtre.
Elle se perd un instant dans la contemplation du bois voisin, puis finit par se retourner lentement vers la pièce, une étrange raideur dans la nuque. On dirait qu'elle fait exprès de laisser tomber la cuillère du sucrier qui va heurter le parquet avec un petit tintement. Parissa la ramasse doucement et la pose sur le plateau. Quand elle regarde Jonah, il y a de la frayeur dans ses yeux et ses lèvres sont pâles. Yannes a dit à Jonah de se rendre dans le grenier en passant par le placard en cas de pépin et de courir sur les toits jusqu'à l'aire de retournement où ils le cueilleront avec un hélicoptère.
« Salim était un autre homme quand on s'est marié, » dit-elle en se levant. « J'ai la photo de notre mariage dans l'entrée. »
Jonah se lève aussi et la suit dans le vestibule, un des rares endroits de la maison où aucun tireur d'élite ne peut les voir. La photographie est accrochée au mur près de l'escalier. Salim a l'air heureux, en costume blanc avec une rose rouge à la boutonnière. Parissa est très jeune, en robe de mariée blanche et avec un hijab blanc, lui aussi. Ils sont entourés d'amis ou de membres de la famille en robe longue et costume.
Il n'a plus autant de cheveux, constate Jonah. Non, il a vieilli, soupire-t-elle.
Contrairement à vous.
Pas vrai.
C'est qui lui? Demande Jonah en montrant l'autre homme qui porte un costume blanc.
C'est Absalon, le frère de Salim. Il a coupé les ponts quand Salim a été mêlé à ce trafic de drogue.
Un silence s'installe. Les paroles de Parissa tombent lentement et coulent comme des feuilles d'automne dans un étang.
Ça, c'est le club de Salim, le FOC Farshta, dit-elle au bout d'un moment.
Elle montre la photo d'une équipe de football, de jeunes hommes en rang, portant des vestes de survêtements rouges sombres.
Ils étaient bons?
Non, rigole-t-elle. Une ombre passe devant la vitre de la porte d'entrée.
J'ai d'autres photos dans la cave, dit-elle en tressaillant. Puis elle inspire profondément. Si vous voulez les voir, vous n'avez qu'à vous installer dans le canapé, je reviens tout de suite.
Elle se détourne, ouvre la porte étroite et commence à descendre un escalier raide.
Je veux bien les voir, mais je préfère venir avec vous, dit-il.
Et il la suit. Arrivé dans une buanderie, Juna voit un lave-linge et des petites culottes en tas par terre. Sur une table est posé un rouleau à repasser.
La remise est par là, dit-elle d'une voix tendue en enfilant une paire de chaussures. Vous pouvez attendre ici.
Elle continue dans un couloir étroit, longe des étagères chargées de chaussures d'hiver et de cartons, et s'arrête devant une porte en acier. Si Parissa cache quelqu'un, c'est forcément au sous-sol, songe Juna en la suivant. Elle déverrouille la porte. Juna passe la main sous sa veste, défait la patte de sécurité et saisit le pistolet. Les poils de sa nuque se dressent quand elle ouvre la lourde porte en poussant un gémissement et allume la lumière. Un couloir souterrain long de plusieurs centaines de mètres s'étend devant eux dans la lumière des néons qui clignotent quelquefois avant de se stabiliser.
« Ah, ce sont des caves communes pour toutes les habitations du quartier ?» demande Juna, bien qu'il doute que le récepteur puisse capter les signaux du microphone d'ici.
Il lui emboîte le pas dans la fraîcheur du couloir. Il passe devant une vingtaine de portes en acier fermées, tourne à gauche et se retrouve dans un couloir encore plus long. Parissa marche aussi vite qu'elle peut en maintenant son hijab en place de la main droite. Il dépasse la porte blindée d'un abri anti-atomique et des conduits de ventilation entourés de bandes d'aluminium brillantes. Parissa finit par s'arrêter devant une solide porte qu'elle ouvre et il monte un escalier, dépasse un local à poubelle, se retrouve dans un hall d'entrée et sort à l'air libre. Le long couloir souterrain les a conduits sous la route, jusqu'à un groupe de petits immeubles. Un toboggan et des balançoires aux chaînes cassées se devinent à la lisière du bois. Le vent violent fait trembler des buissons d'églantiers. Des papiers gras volent au-dessus du sol. Parissa s'approche d'une Opel sale qui est garée parmi une dizaine d'autres voitures. Elle déverrouille les portières et Juna s'assied sur le siège passager à côté d'elle.
Vous savez, quand j'ai dit que je voulais voir les photos, c'était par pure politesse, plaisante Juna, sans recevoir le moindre sourire en retour.